France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. On l'a appris cette semaine, John Hopkins, l'une des universités médicales les plus prestigieuses au monde, en pointe depuis les années 80 dans la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, va devoir supprimer plus de 2000 postes, dont la plupart dans 44 pays. Cet exemple n'est qu'un parmi beaucoup d'autres de l'offensive lancée par l'administration Trump contre les universités et contre la science en général sur fond d'atmosphère anti-vax. Et ils s'en foutent beaucoup que les facs soient les seuls touchés. 800 personnes ont ainsi été licenciées à la National Oceanic and Atmosphere Administration. Le poste de conseiller scientifique à la NASA a été tout bonnement supprimé. Les directeurs de la logistique pour la recherche en Arctique ont été limogés, etc. En France, pendant ce temps, les initiatives se multiplient pour venir en aide et accueillir les scientifiques américains. La plus notable de ces initiatives, Stand Up for Science, défendons les sciences face aux nouveaux obscurantismes, a été lancée le 7 mars. Premier effet imprévu cependant de ce nouveau contexte, les puffs annonçaient l'annulation d'un livre collectif face à l'obscurantisme woke, co-dirigé par Emmanuel Hénin, Xavier Doran Salvador et Pierre Mermeren, initialement prévu pour avril. Cette attaque sans précédent de la science et ses conséquences sont paradoxalement indissociables des évolutions technologiques et de la crise des universités, de la polarisation qu'elles induisent, et renvoie à une question de fond: quel statut pour la science aujourd'hui face aux pressions politiques et idéologiques? Pour essayer de faire le point sur cette question, Valérie Masson-Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous au téléphone, vous êtes directrice de recherche au CEA, climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous avez notamment participé à la reconstitution de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère sur les 800 000 dernières années. Vous avez été coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC de 2015 à 2023. Vous êtes une des cibles favorites des climato-sceptiques. Vous êtes l'auteur aussi de Face au changement climatique au CNRS édition, publié en 2014, et vous êtes une des figures de Stand Up for Science dont je viens de parler. Nathalie Hennick, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de l'art, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez publié plusieurs livres, dont Le wokisme serait-il un totalitarisme, ce que le militantisme fait à la recherche chez Gallimard, et vous apprêtez à paraître Penser contre son camp, itinéraire d'une intellectuelle de gauche, et vous êtes une des signataires du livre dont je viens de parler, dont la publication a été reportée, Face à l'obscurantisme woke, qui va sortir en avril. Vincent Casanova, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditeur, directeur adjoint des sciences humaines au Seuil, agrégé d'histoire et ancien directeur de publication de la revue Vacarme. Et vous connaissez bien le monde universitaire américain, en particulier colombien, je crois.
En tout cas, je suis en lien avec
vous. Vous êtes chercheurs. En lien avec eux. Et Françoise Thom, bonjour.
Bonjour.
Vous commencez à être régulière de cette émission. Vous êtes historienne et soviétologue, maître de conférences honoraires en histoire contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous avez écrit beaucoup de livres sur la Russie, géopolitique de la Russie, Poutine ou l'obsession de la puissance. Et en l'occurrence, vous êtes ici à un double titre et à la fois l'étude de la propagande russe dans ce qui se passe en ce moment, et puis les exemples historiques des attaques de la science, notamment en Union soviétique. Alors, je vais commencer avec vous, Valérie Masson-Delmotte. Quelle est la situation aujourd'hui aux États-Unis? Quels exemples on a concrètement de ce qui se passe?
Oui, c'est une situation d'attaque inédite sur la production de savoir et sur la liberté académique. Donc moi, j'ai mes collègues qui sont des chercheurs d'agences fédérales américaines ont l'interdiction de parler à leurs collègues étrangers ou de s'exprimer à la presse. Mmh. Tous les sites des ministères, par exemple de l'agriculture, de l'énergie, des transports ou de l'agence de protection de l'environnement américain, donc ont été censurés des contenus liés notamment au changement climatique. Il y a une recherche par mots-clés, environ 200 mots-clés sur tous les financements fédéraux à la recherche. Ces mots-clés contiennent, par exemple, tout ce qui a trait aux inégalités, aux femmes, à la pollution, aux sciences du climat, à l'énergie propre. Il y a donc en fait un réexamen de financement de projets de recherche qui entraîne un gel en ce moment, et notamment un gel de nouveaux financements de thèses. Mmh. La prestigieuse agence américaine Océan Atmosphère a été décimée. Environ 10% de ces personnes qui étaient en situation probatoire, c'est-à-dire rotées ou promues depuis moins de 1 ou 2 ans, ont été licenciées. Donc c'est environ 1 millier de personnes. Il y a des contentieux juridiques en cours, hein, pour tous ces licenciements, et une annonce de 10% de licenciements supplémentaires à venir. Cela concerne notamment les services publics de prévision météorologique. Mmh. Il y a une baisse de budget de 65% de l'Agence de protection de l'environnement, des licenciements de biologistes dans les services qui font le suivi des espèces protégées dans la gestion des forêts. Et comme vous l'avez dit, la NASA en fait a fermé le rôle de chief scientist et le bureau correspondant. Et donc la personne qui n'a plus cette fonction est également coprésidente du groupe 3 du GIEC. Je peux également mentionner que l'évaluation nationale américaine de l'état de la nature, National Nature Assessment, a été arrêtée. Et pour prendre la mesure de l'ampleur de ces attaques, qui sont vraiment inédites dans une démocratie, sur l'évaluation, sur la liberté académique, je veux juste rappeler que dans le monde, si on prend les derniers 5 ans, les publications scientifiques sur le changement climatique, les États-Unis représentent environ 23%, premier pays avec au moins un auteur affilié aux États-Unis, de ses publications sur les derniers 5 ans, à peu près à part égale avec la Chine. Mmh. Pour donner un ordre de grandeur, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, c'est à peu près 9%, la France 5%. La NASA fait part égale avec l'Agence spatiale européenne pour le suivi de la Terre depuis l'espace. L'Agence océan-atmosphère américaine opère 2/3 du réseau de profileurs qui nous permettent de faire un suivi de l'état de l'océan en surface et en profondeur dans le monde.
D'accord.
Donc on est vraiment sur des attaques brutales et inédites. Et même l'Université de Columbia, qui a été touchée par des coupes brutales de budgets fédéraux, c'est l'université classée comme la première dans le monde en recherche sur les sciences du climat, de l'atmosphère, avec notamment une prestigieuse Columbia Climate School. Mmh. Et puis vendredi également, des attaques sur le financement fédéral, des bibliothèques et des musées. Donc c'est la production de savoir, mais c'est aussi la culture scientifique qui sont touchées.
D'accord. Vous dites que c'est une offensive idéologique. Hein. Vous avez parlé, quand on a parlé au téléphone, vous me parliez de la Heritage Foundation et du projet, du projet 2025.
2025.
Alors moi, ce que je comprends, c'est que les États-Unis, leader mondial de la recherche en sciences du climat historique, hein, depuis des décennies, avaient fait émerger dans les années 80 le climato-scepticisme, hein, c'est-à-dire le fait de propager de la désinformation sur le changement climatique vers les médias, les décideurs, le grand public, mais tout en maintenant de manière bipartisane. Ces agences fédérales ont été construites par les républicains, les démocrates au fur et à mesure du temps. Donc ils maintenaient une recherche au meilleur niveau mondial, avec l'attachement à la liberté académique, hein, qui fait partie de la démocratie américaine, tout en semant cette désinformation pour certains acteurs très présents aux États-Unis. Là, on voit en fait qu'on a changé d'échelle. Et c'est notamment la mise en œuvre de ce projet 2025 que j'avais lu au printemps de l'année dernière. Donc piloté notamment par la Heritage Foundation, qui porte une vision idéologique, c'est clair. Et par exemple, la vision idéologique pour l'agence américaine Océan-Atmosphère, c'est la privatiser. Mmh. C'est-à-dire ne plus avoir de service public, de prévision météorologique. Il faut rappeler ce que ça coûte, hein, pour les Américains. Ça coûte à peu près $4 par Américain et par an, ce service public de prévision météorologique, avec bien sûr des agents fédéraux qui sont des scientifiques, qui participent au réseau d'observation, lancer des ballons, des radiosondages, opérer des bouées en mer, et en même temps qui font de la recherche amont pour améliorer les modèles qui permettent ensuite d'améliorer la prévision météorologique. Alors, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne sera jamais viable pour une entreprise privée.
Mmh, mmh. Alors, comment expliquer l'ampleur de cette attaque, une attaque pareille et son ampleur? Il y a plusieurs éléments. Il y a une tradition américaine. Hein, un des premiers partis américains s'appelait les Know Nothing, ne rien savoir, ceux qui ne savent rien, c'est-à-dire cette idée qu'on se fie à son instinct et à rien d'autre. Le Covid et la manière dont le Covid a été géré a joué un rôle certainement. François Stomme, dans les multiples informations et dans le brouillage qui a été installé au moment du déconfinement, vous distinguez la désinformation russe.
Oui, il y a eu un effort de désinformation considérable de Moscou à l'époque de la lutte, je dirais, de la compétition entre les vaccins américains et le Spoutnik russe. Et donc les Russes ont essayé de semer le doute sur le vaccin, sur les vaccins en général d'ailleurs, et sur les vaccins américains en particulier. C'était vu comme une espèce de volet de la lutte géopolitique entre la Russie et les États-Unis. Et ce mouvement anti-vax, donc cette désinformation sur le vaccin, elle a eu un effet paradoxal d'ailleurs, parce qu'en Russie même, les Russes ont refusé de se faire vacciner. En masse. Le gouvernement russe n'a pas réussi à convaincre les Russes de se faire vacciner avec le Spoutnik, avec le vaccin Spoutnik. À cause de cette campagne contre les vaccins américains, les Russes se sont dit, si les vaccins américains sont mauvais, alors le nôtre, n'en parlons pas. Vous voyez?
Mais ça
compte. Il y a eu des retombées. Mais ce qui est intéressant, c'est que les réseaux qui se sont constitués dans ce mouvement anti-vax, sont restés, en fait, sont demeurés en place après la disparition du Covid et de cette problématique. Et on voit les mêmes personnes ensuite défendre le Donbass russe, etc., et répandre la désinformation alors sur l'Ukraine. On voit que le mouvement anti-vax, c'est une espèce d'incubateur des réseaux de désinformation russe, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ça a servi en quelque sorte de mégaphone à la propagande russe.
Mais cette propagande, elle s'appuie aussi sur les problèmes de management du confinement à l'époque. Je voudrais qu'on écoute une seconde Francis Collins, qui était l'ancien directeur des National Institutes of Health de 2009 à 2021, qui est une des figures emblématiques de la science aux États-Unis et qui chante dans un rassemblement de Stand Up for Science la semaine dernière.
Together by this noble dream. Have you got that? So it's just all the good people, but the second line, part of this family, and the last line, we're joined together by this noble dream. Do that with me. This is a song for all the good people. Come on. All the good people who are part of this family. This is a song for all the good people. We're joined together by this noble dream. Well, this is a song for all of those dreamers who are looking for answers to come our way.
Voilà. Pourquoi je diffuse cet extrait, c'est que Francis Collins, qu'on entend chanter une chanson de lui dans le rassemblement des scientifiques, a été mis en cause pour son management des mesures pendant le confinement du Covid. On l'a accusé de nier la théorie de la fuite du laboratoire à Wuhan, et ça a contribué dans une bonne mesure à la méfiance vis-à-vis des de ce que les Trumpistes appellent des élites, les universitaires et tout ce qui ressemble à des gens qui ont apparemment un pouvoir sur leur vie. Je pense que le Covid a été un des accélérateurs de la méfiance générale de l'opinion américaine vis-à-vis des universités et du savoir en général. Un sondage Gallup de juillet 2024 montre que la confiance des Américains vis-à-vis des universités est tombée considérablement. Elle est aujourd'hui quelque part entre 32 et 36%, alors qu'elle était à 57% en 2015. Et elle touche tous les groupes républicains, démocrates et indépendants, à des degrés divers, mais tout de même. Ce que les Américains reprochent au système universitaire d'une manière générale, c'est leur politisation et les coûts, évidemment, des universités. Alors, Nathalie Hennick, vous aviez, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, vous êtes depuis longtemps critique de l'atmosphère qu'il y a aux États-Unis autour du savoir et du savoir universitaire en particulier. Vous avez été co-auteur du livre Face à l'obscurantisme qui devait sortir en avril. Vous comprenez, je crois, qu'il soit reporté dans le contexte actuel.
Oui, la publication a été reportée par les PUF en raison du contexte, parce qu'évidemment, en pleine déclaration de Trump contre la science au nom de l'anti-wokisme, c'est pas trop le moment de sembler défendre les politiques anti-science de Trump, alors que ce que nous défendons, c'est l'autonomie de la science contre des emprises idéologiques, qu'elles soient de droite ou de gauche. Alors aujourd'hui, on assiste à une énorme emprise idéologique de droite via les mesures trumpistes contre la science qui sont absolument effrayantes et dramatiques. Mais ce que on essaye de dire, c'est que j'essaye de dire en tout cas avec d'autres, c'est que depuis des années, on assiste à un grignotage de la notion d'autonomie du savoir par des idéologies qui se prétendent progressistes et qui sont portées par des idéologies identitaires communautaristes et qui prétendent tout interpréter en termes de race, de sexe, de discrimination contre des minorités, etc. Ce sont des causes qui ont parfaitement leur place dans le monde politique et je suis la première à m'associer aux luttes pour l'équité et contre les discriminations, mais qui, à mon avis, introduisent dans le monde scientifique l'idée que la science aurait pour objectif l'émancipation et l'égalité, ce qui est un objectif totalement contraire à la notion même d'autonomie de la science. Et donc, ce que me semble-t-il, il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est non seulement les atteintes contre la science venant de l'extrême droite, mais aussi, malheureusement, les atteintes contre la science qui viennent d'une certaine gauche, qui est un peu l'héritière du lysenkisme sous Staline, c'est-à-dire l'idée qu'il serait normal de subordonner le travail des scientifiques à une idéologie. Et on le voit par exemple, il y a quelques années, le physicien Dorian Abbott, qui est un physicien de très bon niveau, avait vu une conférence qu'il devait faire au MIT aux États-Unis, annulée sous la pression de militants, qui lui reprochait d'avoir co-signé une tribune rappelant que le mérite scientifique doit être le critère fondamental en termes de recrutement et de promotion des chercheurs. Bon, parce que pour ces militants, le mérite serait inégalitaire. Bon, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de cette intrusion de logique extérieure au monde scientifique, de logique politique dans le monde scientifique. Dans le livre auquel vous faites référence, il y a des articles de chercheurs en oncologie, en biomédecine, qui montre comment les politiques qu'on appelle DEI, Diversity, Equity, Inclusion, donc diversité, équité, inclusion, qui ont été massivement introduites depuis quelques années dans les universités, amènent à ce qu'une partie des crédits qui devraient aller vers la recherche fondamentale contre le cancer vont vers des études pour montrer que les traitements contre le cancer seraient inégalitaires par rapport à la race ou par rapport au sexe. Bon, au passage, ces études sous-estiment totalement la part des inégalités socio-économiques. Bon, et en même temps, privent la vraie recherche d'une grande partie de ses moyens. Ces articles montrent aussi que dans les revues scientifiques les plus réputées comme Nature, The Lancet, etc., on a introduit des critères DEI qui amènent à privilégier des articles au motif que les auteurs seraient appartiendraient à des minorités discriminées, donc en fonction de la race, du sexe, voire de l'orientation sexuelle, au détriment du mérite proprement scientifique de l'article. Donc on a un grignotage, un minage de l'autonomie de la science venant, depuis des années et des années, venant de ces courants qu'on appelle quelquefois woke, ou en tout cas qu'on peut appeler d'idéologie identitaire ou de pseudo-progressisme, qui à mon avis sont extrêmement dangereux aussi, et qu'on a tout intérêt à pointer en même temps que évidemment on dénonce
ce que vous dites, c'est que ça a joué un rôle dans l'atmosphère actuelle, c'est-à-dire que l'idée que la science, la pensée objective et rationnelle et la méthode scientifique sont nuisibles n'est pas exclusivement une idée qu'on entend aujourd'hui dans les milieux trumpistes. Par exemple, le Smithsonian National Museum of African American History en 2020 a publié un graphique sur son portail en ligne « Talking about race » dans lequel il explique que la méthode scientifique est associée à la culture blanche et en tant que telle doit être récusée. Il n'est pas le seul, et c'est pas tout à fait marginal, parce que Robin DiAngelo, qui n'est pas connu en France mais qui est une star aux États-Unis et qui est notamment l'auteur de White Fragility, présente les traits blancs tels que l'individualisme et l'objectivité comme des normes culturellement construites qui soutiennent le racisme systémique. Donc c'est-à-dire que l'attaque contre la méthode scientifique n'a pas commencé avec le trumpisme, et il est possible, il est même probable, que l'administration trumpiste s'appuie sur les critiques qui ont été faites du système universitaire tel qu'il fonctionne actuellement pour essayer de le défaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Casanova-Pavne?
À mon avis, vous associez beaucoup de choses qui sont peut-être à distinguer, c'est-à-dire que en tant que tel, là, aujourd'hui, faire de ces travaux qui abordent les questions d'inégalité, de genre, de race et de classe, l'origine, ou en tout cas l'un des moteurs qui a pu alimenter l'offensive absolument brutale, comme l'a dit Valérie Masson-Delmotte, contre les universités américaines, ça me paraît quand même aller un peu vite, parce que je pense que de ce point de vue-là, ça reste quand même des choses relativement marginales, et notamment si on regarde, par exemple, dans les études françaises, des travaux sont en cours aujourd'hui qui ont assez bien montré, en tout cas qui vont montrer, de manière assez robuste, à quel point la soi-disant explosion des recherches avec le mot genre, avec le mot race, n'ont pas particulièrement explosé dans les publications de sciences sociales ces 20 dernières années, à partir d'une étude très robuste, très sérieuse, qui va être publiée dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être, dans une revue de sociologie, qui notamment pilotée par Étienne Ollion, pour le citer, et qui montre à quel point, finalement, le critère de classe reste un élément absolument central dans un bon nombre de travaux aujourd'hui. Donc, il me semble quand même un tout petit peu facile, et ça va dans le sens d'accuser finalement ces militants, ces parfois militants qui peuvent être à l'occasion effectivement un peu vindicatifs, énervés.
Mais ils existent ou ils n'existent pas, les militants?
Ces militants outranciers qui comme peut l'être l'activité militante, mais de considérer que c'est eux qui réellement sont aujourd'hui peut-être, ont armé finalement Trump, je pense que là, vraiment, c'est procéder de manière un tout petit peu injuste, parce que c'est leur donner beaucoup de pouvoir qu'ils n'ont en fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui me semble extrêmement grave et qui est dont moi j'ai d'ailleurs du mal à prendre la pleine mesure, si on prend les cas de ce qui se passe à Columbia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des arrestations, ça m'a été rapporté très directement par des professeurs à Columbia, il y a eu un article dans le New York Times qui en a fait part, il y a des arrestations absolument illégales d'étudiants sur le campus de Columbia, dans les dortoirs, la police se présente sans mandat d'arrêt, avec aucun élément, et qui des étudiants étrangers, bien souvent, qui sont en train de faire leur recherche et qui sont tout simplement chassés, en fait, de leur position. Et donc, il me semble que si on doit un tout petit peu quand même penser la priorité des choses, c'est ça aujourd'hui la gravité, en fait. Les actions militantes variées et qui sont finalement quand même, encore une fois, je pense, relativement, si ce n'est anecdotique, en tout cas qui ne bouscule pas fondamentalement la science, et je terminerai juste là-dessus, c'est qu'en plus, je trouve qu'on a une manière d'imaginer la science comme si elle était absolument, et beaucoup de travaux quand même l'ont montré, des travaux d'histoire des sciences, son autonomie absolue, bah en fait, il y a une chose toute simple, c'est que de toute façon, elle est financée. Donc, le financement, il n'est pas exactement autonome. Il y a des politiques publiques scientifiques. Et si on revient au cas français, on voit bien que les politiques publiques scientifiques aujourd'hui, eh bien, elles sont totalement sous-investies, sous-financées.
On va laisser le cas français pour une autre émission.
Mais les Américains sont en train de faire ça. Voilà.
Nathalie Yannick.
Oui, je pense que c'est pas trop le moment de contester l'autonomie de la science. Hein. En ce moment, avec l'atmosphère trumpiste, il vaut peut-être mieux laisser la déconstruction à d'autres. Hein. Bon, je voulais juste dire que un exemple parmi d'autres, il y a 3 ans, un cours de théorie de l'évolution a été annulé à Sciences Po après avoir été accepté par la direction sous la pression de militantes néo-féministes qui sont pas d'accord avec la théorie de l'évolution parce que disent-elles, ça contredit le dogme du socialement construit. Bon, c'est un exemple parmi d'autres de cette forme d'obscurantisme qui ruine, qui en tout cas mine depuis des années l'université aux États-Unis et en France. Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que l'urgence aujourd'hui, c'est de défendre les scientifiques américains contre ces emprises absolument dramatiques. Mais n'oublions pas quand même, ne faisons pas 2 poids 2 mesures. Si on défend l'autonomie de la science, à ce moment-là, il faut la défendre sur tous les fronts et arrêter de penser qu'on est dans une opposition entre la droite et la gauche. Cette opposition, elle est valable dans le domaine politique, mais dans le domaine universitaire, académique, scientifique, la vraie opposition, c'est entre ceux qui défendent le droit des chercheurs à décider de ce qu'ils vont, ce sur quoi ils vont travailler et d'avoir des recherches qui soient conformes aux méthodes proprement scientifiques, face à ceux qui voudraient subordonner la recherche à des impératifs idéologiques, même si ces idéologies sont tout à fait légitimes dans le monde politique. Et là, je crois qu'il y a un vrai combat et une vraie incompréhension des enjeux pour la recherche, qui font que, encore une fois, ramener ça à une opposition entre les méchants trumpistes et les gentils gauchistes, c'est juste ne pas voir le problème.
Valérie Masson-Delmotte, sur cette question.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les domaines scientifiques qui sont ciblés aux États-Unis, moi, je l'ai décrit comme étant notamment toutes les sciences de la durabilité. Mmh. Vous savez, les objectifs de développement durable, qu'est-ce que c'est une société durable qui ne laisse pas tomber en fait hein, les conditions de vie des jeunes générations par rapport à des urgences immédiates? Le premier objectif de développement durable, il porte sur la réduction de l'extrême pauvreté. Le deuxième, la faim. Ensuite, il y a des aspects liés à l'accès à la santé, à une énergie propre. Il y a les aspects liés au climat, à la biodiversité, à l'eau et tout le reste, y compris les institutions fiables. Donc, ce sont ces sciences de la durabilité qui sont ciblées. Elles sont ciblées en tant que telles. Elles sont ciblées aussi par la coupe des budgets américains de l'aide humanitaire, de l'aide au développement, l'arrêt des financements climat. Qui en fait hein, vont couper des moyens pour des populations dans des contextes extrêmement précaires, sanitaires, environnementaux, en termes d'accès à l'alimentation. Et un exemple de programme international qui est coupé, c'est par exemple l'alerte précoce pour la sécheresse en Afrique de l'Est. Et je reviens sur cette question en fait hein, des sciences de la durabilité. Pourquoi est-ce qu'elles sont ciblées? Elles sont ciblées bien sûr parce qu'elles dérangent. Elles dérangent notamment parce qu'elles impliquent un certain nombre de redistributions, parce qu'elles impliquent un cadre réglementaire pour la protection de l'environnement. Et elles dérangent parce que la politique de l'administration Trump-Vance, c'est une politique extrêmement lâche, c'est-à-dire un repli sur soi. Le fait de vouloir favoriser les énergies fossiles et leurs émissions de gaz à effet de serre au détriment de toute responsabilité par rapport aux conséquences. Donc le constat scientifique dérange, les faits scientifiques dérangent, et ce qui est attaqué, c'est la production et le partage de ces connaissances. Je fais par exemple référence, tout à l'heure je faisais référence à l'agence Océan-Atmosphère, un des sites emblématiques de la recherche américaine sur les gaz à effet de serre, c'est l'observatoire de Mauna Loa, où depuis la fin des années 1950 se fait le suivi continu des niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce qui est menacé actuellement, c'est le bail, permettant d'opérer en fait hein, ces mesures à Mauna Loa. Donc c'est coupé le budget fédéral qui permet de louer ce bâtiment. Donc il faut bien comprendre l'ampleur des enjeux. Et ce qui est également attaqué, c'est le droit à la science. Le droit à la science, c'est considéré comme un droit humain fondamental. Et ça va aussi avec le fait de rendre les parcours, les métiers scientifiques accessibles à des personnes qui, par leur histoire personnelle ou familiale, en sont les plus éloignées. Donc par exemple, les stages organisés par la Fondation américaine pour la recherche, la NSF, pour permettre de rencontrer ce qu'est la recherche fondamentale à des étudiants de milieux défavorisés, ont été interrompus. Et donc par rapport au point qui était abordé tout à l'heure, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui n'a aucune mesure avec une vision qui peut être idéologique, qui était décrite tout à l'heure. Là, ce qui est vraiment ciblé, c'est même le fait de rendre la science plus inclusive pour les personnes qui pourraient y contribuer en coupant les opportunités de le faire.
Absolument. Ce sont deux questions séparées, mais il me semble que quand on écoute les responsables de l'administration américaine, ils s'appuient sur les dérives des universités pour ensuite faire ce qu'ils veulent dans tous les sens. Et cette idée que les dérives sont anecdotiques est quand même, selon le ministère de l'Éducation américain lui-même, les postes administratifs dans les universités ont augmenté de 60% entre 1993 et 2009, contre 10% pour le corps professoral. C'est-à-dire que le corps administratif, essentiellement composé des fameux DEI, a considérablement augmenté. Pour la seule université du Michigan, par exemple, les coûts administratifs ont dépassé les 400 millions de dollars en 2021. C'est énorme.
Postes dégagés uniquement pour le programme Diversité, Équité, Inclusion. Voilà. C'est-à-dire autant d'argent qui n'ira pas à la recherche.
Voilà. Et quand on discute avec des journalistes ou des profs américains, il y a une blague aux États-Unis selon laquelle les universités sont devenues des fonds de pension, des fonds d'investissement, avec quelques profs disséminés ici et là en vitrine. C'est une plaisanterie, mais quand même, c'est pas sans conséquence. L'une des doyennes des trois doyennes la doyenne d'Harvard à l'époque, Claudine Gay, après avoir été interviewée sur sa gestion des manifestations antisémites, quand elle a répondu que appeler au génocide des Juifs ne contrevenait au code de conduite en vigueur dans son université que selon les contextes, elle a été ensuite accusée de plagiat par le New York Times, notamment, qui a découvert 50 cas couvrant 8 de ses travaux universitaires, y compris sa thèse, et 5 de ses articles publiés, et elle a été acculée à la démission, mais elle est restée enseignante et elle a conservé son poste, son salaire de présidente, qui s'élève à 1 million de dollars par an. Ce sont des exemples que je donne parce que ça dit quelque chose sur une dérive qui est une dérive essentiellement financière et qui joue un rôle considérable dans le ressentiment de la population américaine vis-à-vis de cette université.
Et j'ajoute pour mieux comprendre la méfiance d'une partie de la population américaine aujourd'hui contre les universités, l'envahissement des universités américaines par des militants pro-palestiniens depuis le 7 octobre 2023 a fait aussi beaucoup pour disqualifier une grande partie du système universitaire.
Et je vais ajouter juste un dernier élément d'information et après je vous donne la parole. Vincent Casanova, un rapport de 2023 publié par une association à but non lucratif, plutôt de centre-gauche, qui s'appelle Nation Contagion Research Institute, a mis à jour qu'entre 2015 et 2020, quelque 13 milliards de dollars ont été secrètement versés à 200 collèges et universités américains par des régimes étrangers, Qatar et Chine en premier lieu. C'est quand même pas rien, c'est quand même pas marginal, non ?
Non, mais, si vous voulez, il est difficile de parler à la place
des premiers concernés.
Des premiers concernés.
Oui, je suis d'accord.
Et ce qu'on peut quand même juste dire, et assez clairement, les manifestations, on voit bien en tout cas que dans cette fait de cibler, en l'occurrence, au Colombien, mais vous avez évoqué John Hopkins. John Hopkins, ça n'a pas été particulièrement envahi par des manifestants.
Oui, tout à fait.
Donc, En fait, ça me semble vraiment extrêmement réducteur. Et surtout, si on prend un tout petit peu de champ historique, en fait, il y a quand même une petite histoire du climato-scepticisme aux États-Unis. Dans le rapport au savoir, il y a eu des travaux extrêmement, de Eric Conway, Naomi Oreskes, les marchands de doute, qui ont bien montré comment il y a, depuis des décennies, en fait, aux États-Unis, l'industrie du tabac a été évidemment très artisane de tout cela. Le pétrole a suivi pour organiser en fait ce qu'ils ont appelé la controverse sur le doute du climat. Et vous évoquiez justement l'annulation d'un cours à Sciences Po autour de la théorie d'évolution. Je n'étais pas au fait de cette information. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu tout un mouvement qui s'appelait Tix the Controversy, qui voulait justement mettre en avant le fait que, il y aurait controverse autour de l'évolution. Et je reviens à ça parce que je pense que ce n'est pas de faire de la déconstruction que de dire, à mon avis, un des problèmes aujourd'hui, et ce qui nous conduit en fait dans cette situation, c'est plutôt une très mauvaise compréhension, et dans les discours notamment publics, de ce que c'est que réellement le travail des scientifiques qui fonctionnent par le régime de la controverse, du désaccord,
possible.
Du débat. Et en fait, là, aujourd'hui, on se retrouve finalement dans un moment où très grave, hein. Enfin, vraiment, je dois dire que j'ai été extrêmement troublé, hein, par les informations là qui m'ont pu être partagées de ce qui se passait à Columbia, et pas qu'à Columbia, qui mettent en cause fondamentalement, en fait, l'état de droit, très clairement, et en fait, sur le dos de la science. Et ça ne se passe pas en France aujourd'hui. Je ne crois pas que le problème soit les militants pro-palestiniens qui aujourd'hui n'ont pas particulièrement en fait le pouvoir. Donc en l'occurrence, c'est quand même, je trouve, un tout petit peu leur faire porter le chapeau, alors que en tant que tels, en fait, ils sont plutôt aujourd'hui ceux qui sont cibles.
Ils n'ont certes pas le pouvoir, mais ils ont donné un spectacle, en particulier à Colombie. Alors si on parle de Colombie, il y a quand même un problème. Non, mais attendez, parce qu'il faudrait, je voudrais donner la parole à Valérie Masson-Delmotte, et puis assez vite, puis ensuite François Stom.
En fait, vous faisiez référence aux débats qui ont toujours lieu sur les campus américains depuis très longtemps et dans tous les contextes sensibles. Hein. Souvenez-vous, par exemple, de la guerre au Vietnam, par exemple. Et néanmoins, ce qui est actuellement mis en œuvre par l'administration Trump-Vance, c'est pas que les universités, puisqu'il y aura des coupes par le pourcentage de budgets fédéraux qui vont venir au budget des universités. Donc là, les conséquences directes, c'est moins de financement de thèses, moins de places pour les étudiants dans les universités américaines. Donc c'est une fabrique, en fait, hein, de l'ignorance. C'est des attaques sur les agences fédérales de services publics de la recherche, hors université. C'est des attaques sur la pierre angulaire du droit de l'environnement à travers les communautés qui sont les plus exposées aux inégalités environnementales, la pierre angulaire de la protection de la nature par le suivi des espèces protégées, et puis ça va être la même chose sur les sciences du climat. Mmh. Et moi, je fais quand même référence à ce discours qu'avait fait J.D. Vance en 2021, quand il était candidat pour une élection sénatoriale, où il pointait du doigt, hein, l'université et le professeur comme étant ses ennemis.
Ses ennemis, oui. Et c'est là qu'on retrouve...
Donc, il faisait référence aux aspects diversité, égalité, inclusion, mais il faisait aussi référence, plus largement, à l'exposition des jeunes Américains à d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de penser. Et on comprend bien que c'est ça qui est attaqué. Et pour moi, effectivement, c'est une attaque profonde sur la liberté académique, sur l'indépendance des universités. Et cette liberté académique, je veux quand même rappeler qu'elle est au fondement, hein, de la pensée des droits humains, la pensée des démocraties. L'attaque sur ce qu'est le développement durable, les sciences du développement durable, c'est aussi une attaque sur les droits humains qui sont au cœur des grandes conventions de Rio. Et ça, il faut bien en mesurer la gravité.
Oui, absolument. François Stom, sur cette, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une espèce de suicide collectif sur fond de tout technologique et d'une relativisation totale de la notion de vérité qui, encore une fois, n'a pas forcément commencé avec cette administration, mais qui prend aujourd'hui une tournure radicale.
Oui, on a l'impression que c'est un monde surréel, en fait, un monde médiatique qui l'emporte sur tous les autres. Et ce qui est frappant dans cette administration Trump, c'est le mépris de l'expertise qui ne se révèle pas seulement dans le domaine de la politique universitaire, mais même dans le choix des secrétaires, des responsables des différentes branches du gouvernement américain. On a l'impression que pour Trump, c'est un peu la face médiatique des personnalités qui comptaient et leur capacité réelle ne jouait aucun rôle.
Oui, les influenceurs prennent le pas sur les scientifiques, clairement. Oui, absolument.
Oui, il y a un mépris de l'expertise.
Un mépris de l'expertise.
Par exemple, choisir pour coiffer le renseignement américain une dame dont la spécialité était de répéter la propagande du Kremlin, bah, on voit vraiment le mépris le plus total pour à la fois pour les administrations qu'elle va devoir chapeauter et pour le savoir, tout simplement. Donc,
on arrive à la fin de cette émission. Nathalie,
oui, pour répondre à Vincent Casanova, moi, je pense que toutes ces théories de la déconstruction auxquelles vous avez fait référence, donc cette idée de la relativité du savoir, de la relativité de la vérité, ont pavé le chemin pour ce mépris de la science qui se manifeste aujourd'hui chez Trump et sont vraiment une idéologie de fond qui a donné des outils pour s'autoriser, pour que des politiques s'autorisent à prendre le pas sur des chercheurs et à les empêcher de travailler. Et je me permets de mentionner à ce propos un excellent ouvrage collectif qui est paru au PUF il y a 3 mois, intitulé « Les humanités attaquées » sous la direction de Jean Slamovitz et Pierre-André Taguieff, et qui fait remarquablement le tour de la façon dont ces théories de la déconstruction minent le rapport à la vérité et donc minent l'autonomie de la science.
Je réponds juste sur un point. Je n'ai à aucun moment dit qu'il fallait remettre en cause le travail des scientifiques, de la fabrication des faits et de sa robustesse. C'est juste de dire, en fait, comment ça se fait, comment ça se pratique, comment ça se construit. Et là, ça me paraît un tout petit peu rapide de renvoyer ça, en fait, à un revers de main.
On arrive au terme de cette émission, je suis désolé. Voilà, merci à tous les quatre. Merci Vincent Casanova. C'est pas une position facile. Merci de l'avoir obtenu. Merci François Stomme d'avoir été là. Je rappelle le dernier livre, Géopolitique de la Russie, aux éditions Que sais-je. Merci Valérie Masson-Delmotte, Face au changement climatique au CNRS Éditions. Et merci Nathalie Hennig, à paraître donc au mois de mai, Pensée contre son camp, itinéraire d'une intellectuelle de gauche, chez Gallimard. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Nicolas Bonnet et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.